Bonjour et bon vendredi. C'est le 20 juillet 2018. Déjà le mois de juillet qui file, ça va trop vite. Mais profitons de chaque instant. C'est le début ou presque des vacances de la construction pour plusieurs personnes qui sont à l'écoute, que je vous souhaite déjà belle à l'avance. Hélène Denis qui vous accompagne à l'émission Le quotidien des quotidiens. Et c'est Maurice Bolduc qui est là. Bonjour Maurice.
Oui, salut.
Vous avez bien dormi?
Non.
Comment ça?
Ben, je sais pas, ça arrive.
J'ai dit ça comme ça, étant donné que c'est pas encore tout à fait la canicule.
Non, j'ai toujours le sommeil du juste, mais ça a donné qu'hier, je sais pas.
Ah,
ça...
le sommeil de l'injuste.
Ouais, agité. Bon. Sommeil agité, mais c'était correct.
Ouais.
Je suis là.
Bon, vous allez pouvoir vous reprendre en fin de semaine, j'espère bien.
Ce soir, même pas ce soir.
Oui,
ce
oui,
soir,
oui.
Tout de suite.
OK, alors, qu'est-ce qui se passe le 20 juillet dans l'histoire?
En 2005, c'était l'entrée en vigueur de la loi sur le mariage civil qui légalisait... Ben, qui a légalisé le mariage entre conjoints du même sexe au Canada. En 1987, en une semaine, il y a le bilan d'une chaleur d'une vague de chaleur en Grèce a fait 900 morts. C'est énorme. En 1976, après 11 mois de voyage, la sonde américaine Viking 1 se pose sur Mars et transmet des photos. 1969, comme disait l'autre, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. C'est le module lunaire Apollo 11 qui se pose dans la mer de la Tranquillité. Et Neil Armstrong, qui a dit ce que je viens de citer, a été le premier homme à marcher sur la Lune. Son coéquipier Edwin Aldrin suivra peu après.
La Lune qui est en vedette aujourd'hui, notamment à la Une du Devoir et au Centre des sciences de santé, au Centre des sciences dans le Vieux-Port, j'y reviendrai.
Pour le morceau de Lune. Là,
oui, on peut même y toucher.
Oui, mais il paraît que c'est tout petit. Hein? C'est un petit caillou, là, une petite roche.
Oui.
Faut pas attirer d'un lac, on va la perdre. En 1963, le nord du continent nord-américain connaît une éclipse solaire totale, en parlant de Lune. En 1917, par le pacte de Corfou, les Slovènes, les Croates et les Serbes acceptent de former la Yougoslavie. 1885, à Regina, le procès pour trahison de Louis Riel débute. Il sera pendu le 16 novembre suivant. En 1871, la Colombie-Britannique se joint à la Confédération. C'est là qu'ils ont dû commencer à appliquer la fameuse devise canadienne « Mare usque ad mare » d'une mer à l'autre. Parce qu'avant la Colombie-Britannique, mais pas de grand-mère, hein, c'est les terres. Donc, même les rocheuses, qu'on pourrait plutôt dire. 1859, premier match payant au baseball entre New York et Brooklyn, où 1500 personnes payent 50 cents chacune. 50 cents en 1859, ça devait être quand même pas pire d'argent, non?
Oui, j'imagine.
Une semaine de salaire, quelque chose du genre, là, ça aurait, en tout cas, ça serait à vérifier. Les naissances, Carlos Santana, le guitariste compositeur mexicain, naît en 1947. 1925, Franz Fanon, le psychiatre et essayiste français, on lui doit entre autres les données de la Terre, c'était très populaire dans les années 60 comme écrit communiste, on disait. Là. 1955, le dramaturge et scénariste René-Daniel Dubois naissait aujourd'hui. Donc, bonne fête,
c'est
monsieur.
Tout?
Ah. Monsieur Dubois, oui, bonne fête. Quelques décès. Bruce Lee, qui lui nous quittait à l'âge de 32 ans, très jeune, en 1973. Le poète Paul Valéry nous quittait en 1945. 1937, lui, c'est quand même important, le physicien et inventeur italien Marconi nous quittait en 1937. Pas de Marconi, pas de radio.
Oui. Hein? Pas de Marconi, pas de radio, pas de Maurice, pas d'Hélène.
Ouais. Ben, il y aurait quelqu'un d'autre, je présume. Ça aurait été quelqu'un d'autre, mais c'est à salut qu'on le doit. Donc, merci, M. Marconi.
Merci, M. Marconi.
Et en 1923, le chef rebelle mexicain Pancho Villa nous quittait lui aussi.
Merci, Maurice.
Ça fait le tour du 20 juillet.
À la une de la presse, sport sanctionné pour dopage, une carrière brisée par une pompe pour l'asthme. En 2015, Anna Laura Portuondo Izazi a écopé d'une suspension de 2 ans après un test antidopage positif au salbutamol. Le niveau détecté était moindre que dans l'échantillon qui a récemment fait trembler le cycliste britannique Chris Froome, qui n'a pourtant reçu aucune sanction. La judoka québécoise raconte son cauchemar. Découverte archéologique, un village autochtone sous Peel et Sherbrooke. poursuites policières à Longueuil, rien ne justifiait une telle prise de risque. Le policier, dis-je bien, Patrick Ouellette, déclaré coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort. Et art, cinéma, l'été italien de Troggi, 1991, troisième opus autobiographique du cinéaste, arrive sur nos écrans. On parle bien sûr de Riccardo Troggi. Alors que les grutiers poursuivent leur combat pour empêcher des ouvriers non spécialisés de manœuvrer des camions flèches, un accident mortel impliquant un de ces appareils en Gaspésie relance le débat sur la formation de ces travailleurs. La coroner André Kronstrom avait déjà émis des recommandations à la suite de trois événements semblables. L'accident est survenu à la Rédemption, au sud de Montjoly, mercredi matin, lorsque le mât du camion flèche a touché un fil électrique à haute tension, pendant une opération de déchargement de bardeaux sur le toit d'une résidence en rénovation. Le travailleur qui était aux commandes est mort par électrocution et son camion flèche a pris feu, indique la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail qui a ouvert une enquête. Et je poursuis concernant cette nouvelle de la mort d'un grutier. Tout porte à croire que le travailleur employé d'une quincaillerie Home Hardware n'avait pas de carte de compétence de grutier. La Commission de la construction du Québec considère que les opérateurs de ce type de grue qui ne font que livrer du matériel, comme c'était apparemment le cas de ce travailleur, ne sont pas assujettis au même règlement que les grutiers qui font de la manutention et de la pose d'équipements sur des chantiers de construction. Nous n'avons pas le pouvoir d'intervenir dans un cas comme celui-là, ce n'est pas de notre juridiction, assure la porte-parole Mélanie Malenfant. L'accident survient alors que les deux principaux syndicats de grutiers s'opposent vigoureusement à un règlement de la CCQ entré en vigueur en mai dernier qui permet à des ouvriers non spécialisés d'apprendre à manœuvrer des camions flèches au terme d'un cours de 80 heures et de plusieurs heures de supervision, sans passer par une formation professionnelle obligatoire de 870 heures. Même si le nouveau règlement de la CCQ ne vise pas les livreurs de matériaux qui se servent de camions flèches, les grutiers y voient une démonstration des risques liés au fait que des opérateurs moins qualifiés puissent se servir de tels engins. Un village autochtone découvert sous le centre-ville. Des archéologues ont fait une découverte majeure sous l'une des rues les plus achalandées du centre-ville. Des milliers d'objets trouvés sous l'intersection des rues Sherbrooke et Peel révèlent que les Autochtones auraient établi un village à Montréal dès 1400, soit bien plus tôt qu'envisagé. C'est une découverte importante. On avait un peu de traces par-ci par-là de l'occupation de Montréal par les Iroquois du Saint-Laurent. Mais ça, c'est le seul site de village qu'on a sur l'île, s'emballe Roland Tremblay, archéologue pour la firme Ethnoscope. Pendant les travaux pour l'aménagement de la promenade Fleuve-Montagne en 2016 et 2017, la Ville de Montréal avait chargé des archéologues de mener des fouilles. Cette décision avait été prise en raison de la proximité du site archéologique d'Austin, où plusieurs objets avaient été trouvés vers 1860 près de l'Université McGill. Malgré l'urbanisation du secteur et la présence de nombreuses infrastructures sous terre, des portions de sol jamais perturbées ont été relevées en cours de chantier sous l'intersection des rues Sherbrooke et Peel. On s'est dit que s'il restait quelque chose, on allait le trouver. Quand on est tombé sur cela, ça a vraiment été une surprise, dit Marie-Claude Morin, archéologue pour la Ville de Montréal. Ces quelques lopins ont en effet représenté une véritable mine d'or historique, recelant pas moins de 2200 tessons de poterie. Ceux-ci proviendraient d'environ 90 vases différents. Plusieurs outils taillés dans des os ou de la pierre ont également été retrouvés, signe de la présence d'un village. En plus des objets, la sépulture d'une jeune adulte a aussi été trouvée quelques jours avant Noël 2016. Celle-ci fait partie des sépultures que Montréal entend restituer à la nation Mohawk. Les archéologues ont aussi découvert une dent de béluga, ce qui tend à prouver que les habitants commerçaient avec d'autres groupes éloignés. Cette découverte ne tranche pas le débat sur l'emplacement du village d'Hochelaga, décrit par Jean Cartier, prévient Roland Tremblay. La datation situant le village autour de 1400, ce site n'était vraisemblablement plus occupé au moment de la venue de l'explorateur français. Vacances de la construction, la SQ sur le qui-vive. Les policiers de la province ne chômeront pas durant les deux prochaines semaines. Nous serons présents non seulement sur les routes, mais dans les sentiers, sur les plans d'eau, sur les pistes cyclables et également dans les airs avec la patrouille aérienne, a indiqué le chef de service de la sécurité routière à la SQ, le capitaine Paul Leduc, en 2016. La Sûreté du Québec avait donné 15 000 constats d'infraction entre le 22 juillet et le 7 août. Les principales causes d'accidents routiers au Québec sont la vitesse, l'alcool et les drogues, ainsi que la fatigue. Afin d'éviter le pire, la SQ conseille de planifier ses déplacements et de respecter les limites de vitesse. Même si le nombre d'accidents mortels pendant les vacances de la construction était particulièrement élevé l'an dernier, la situation générale s'améliore. Le nombre de morts sur les routes au Canada a chuté de près de 40 % entre 1997 et 2016, selon des données de Statistique Canada. D'où viennent les vacances de la construction? C'est en 1970 qu'on officialise les célèbres vacances de la construction. Un décret gouvernemental permet alors d'intégrer ce congé estival dans les conditions de travail convenues par les travailleurs et leurs employeurs. Cette année, c'est près d'un Québécois sur trois qui prendra congé pendant cette période. Et les faits saillants de l'année 2017 sur les routes du Québec, 359 personnes sont mortes, soit 13 de plus qu'en 2016. 22 personnes ont perdu la vie pendant les vacances de la construction. 1501 personnes ont été blessées gravement, soit 28 de plus qu'en 2016. 35 330 personnes ont été légèrement blessées, soit 515 de moins qu'en 2016. Il n'y a décidément pas que des robes de mariée à vendre sur la Plaza Saint-Hubert. La Société québécoise du cannabis, SQDC, vient de confirmer l'emplacement de sa première succursale montréalaise qui sera située dans un immeuble appartenant au richissime homme d'affaires Stephen J. Schiller. Propriétaire de dizaines d'immeubles commerciaux rue Masson et dans le plateau Mont-Royal, l'entrepreneur est surtout célèbre pour être celui qui scandait bruyamment « Oui, papa !» dans les fameuses publicités des magasins de stores au bon marché dans les années 80, aux côtés de son frère Richard et de son père David. Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec le cannabis. En fait, je n'en ai aucune. Mais les gens avec qui nous avons signé le bail sont de vrais professionnels. Le choix de l'emplacement de la Plaza Saint-Hubert répond à plusieurs de nos critères, notamment parce que l'endroit se trouve à plus de 150 mètres d'une école et qu'il est accessible en transport en commun, dit Mathieu Gaudreau, porte-parole de la Société québécoise du cannabis. Les corps des deux pêcheurs disparus lundi soir ont été retrouvés dans le Saint-Laurent, dans le secteur de Melocheville, en Montérégie. Les plongeurs de la Sûreté du Québec ont découvert le corps d'Olivier Thibert, 30 ans, mercredi midi. Le corps de son collègue de travail et ami, Mathieu Dickner, 37 ans, a été retrouvé hier matin. C'est un pêcheur qui a fait l'appel, ayant permis de retrouver le corps de Mathieu Dickner. Ce dernier se trouvait près de la marina de Melocheville. Les deux amis manquaient à l'appel depuis plus de deux jours. Ils étaient partis pêcher lundi après-midi. Des plongeurs de la Sûreté du Québec étaient sur les lieux depuis mardi après-midi afin de passer au ping fin le secteur de Melocheville, près du barrage de Pointe-des-Cascades. Et pour terminer, à chaque jour, sa polémique pour Facebook, dont le patron fondateur Mark Zuckerberg essuie un feu nourri de critiques pour son refus de bannir les négationnistes du réseau social. Dans un entretien accordé mercredi au site spécialisé Recode, il a indiqué qu'il ne comptait pas censurer des propos qui auraient été tenus, selon lui, sincèrement. « Je suis juif et il y a des personnes qui nient l'existence de l'Holocauste. Je trouve cela très choquant. » Mais au bout du compte, je ne crois pas que notre plateforme doive supprimer ce genre de propos parce que je pense qu'il y a des choses sur lesquelles certaines personnes se trompent. Aux États-Unis, révisionnisme et négationnisme ne sont pas interdits par la loi et la jurisprudence tend à les placer sous la protection du premier amendement de la Constitution qui garantit la liberté d'expression.
Non, je ne veux plus jamais travailler. Laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller. Laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Oui monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout. Alors, laissez-moi, 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 laissez-moi. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi.
Au quotidien des quotidiens, c'était Catherine et la banane.
À la une du Devoir, actualité, l'histoire de la Lune est pleine de rebondissements. Relations fédérales-provinciales, Ford passe à l'offensive. L'Ontario se joint à la Saskatchewan pour combattre la taxe sur le carbone. Israël, l'État-nation juif, divise. L'adoption du projet de loi est un pas vers l'apartheid, selon certains. Francofolie, la bataille des quotas. La survie de la chanson belge passe par sa diffusion, plaide le cofondateur du Festival de Spa, c'est Sylvain Cormier, qui est correspondant à Spa. Le policier Patrick Ouellet, coupable de conduite dangereuse. Aussi, la chronique de José Blanchette, l'été, c'est fait pour glander. Petit rappel aux agités du bocal et culture, Wesley et les trésors des Lacou au Festival Haïti en folie. Ford passe à l'offensive après avoir tourné le dos au marché du carbone. Le premier ministre Doug Ford se donne pour mission d'envoyer à la casse la taxe sur le carbone, qui est une mauvaise taxe pour les familles, une mauvaise taxe pour les entreprises, selon lui. Pour y arriver, l'Ontario appuiera les efforts de la Saskatchewan visant à faire invalider la mesure fiscale fédérale devant les tribunaux. l'Ontario emploiera tous les outils à sa disposition pour contester la taxe carbone du fédéral, a-t-il annoncé à la presse en marge d'une rencontre de travail du Conseil de la Fédération jeudi. Ceci est un important pas dans la lutte contre la taxe sur le carbone fédéral. Son homologue saskatchewanais, Scott Moe, a soutenu que la taxe sur le carbone constitue une mesure inefficace, qui ne diminue tout simplement pas les émissions de gaz à effet de serre, en plus de nier la diversité de l'économie canadienne. La taxe sur le carbone réduit les emplois. La taxe sur le carbone réduit les occasions d'affaires, a-t-il martelé. La ministre fédérale de l'Environnement, Catherine McKenna, s'est dite déçue jeudi de voir le gouvernement progressiste conservateur Ontario dépenser 30 millions de dollars de l'argent des contribuables pour briser l'élan de ceux et celles engagés dans la lutte contre les changements climatiques. L'adoption jeudi matin par le Parlement d'Israël d'une loi faisant du pays un État-nation juif suscite des réactions divisées. Alors que certains soulignent qu'un racisme envers les Arabes est inhérent à la loi, d'autres trouvent ces accusations exagérées. Cette loi fondamentale, qui fait office de constitution, établit Israël comme l'État national du peuple juif où celui-ci applique son droit naturel, culturel, religieux et historique. Elle fait de Jérusalem complète et unie sa capitale et de l'hébreu sa langue officielle. Elle confère à la colonisation le statut de valeur nationale et l'encourage. Elle a été adoptée par 62 voix contre 55 avec 2 abstentions. La députée néo-démocrate Christine Moore a été blanchie des accusations d'inconduite sexuelle déposées contre elle par un vétéran des Forces armées canadiennes. C'est à cette conclusion qu'est arrivée une enquête indépendante menée à la demande du chef du nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, et dont les détails ont été divulgués jeudi. La députée d'Abitibi-Témiscamingue pourra donc dès maintenant, réintégrer ses fonctions au sein du caucus néo-démocrate duquel elle avait été expulsée le 8 mai dernier. La députée abitibienne a par ailleurs confirmé avoir déposé une poursuite en diffamation à l'endroit de M. Glenn Kirkland, un ancien militaire manitobain, de même qu'aux 3 chroniqueurs qui ont rapporté les propos de ce dernier. Des journalistes ont fait publier dans une revue scientifique peu renommée une fausse étude sur le cancer dans le cadre d'une vaste enquête sur les publications peu scrupuleuses, a raconté jeudi Le Monde. L'enquête visait à démontrer que n'importe qui, à condition de payer, pouvait faire passer de la fausse science pour de la vraie. Les journalistes de 2 médias allemands, le quotidien Süddeutsche Zeitung et la radio publique NDR, ont transmis à la revue Journal of Integrative Oncology les résultats d'une étude clinique montrant que de l'extrait de propolis était plus efficace sur le cancer colorectal que les chimiothérapies conventionnelles. L'étude était fictive, les données fabriquées et les auteurs affiliés à un institut de recherche imaginaire n'existaient pas non plus. La publication fut néanmoins acceptée en moins de 10 jours et publiée le 24 avril, a expliqué Le Monde. Le cinéma, c'est fini, annonce après un demi-siècle de carrière l'acteur Jean-Louis Trintignant, monument du cinéma français, dans une entrevue diffusée jeudi. Le cinéaste de 87 ans, qui souffre d'un cancer de la prostate, explique avoir refusé de tourner dans un prochain film de Bruno Dumont. « C'était intéressant, mais j'ai eu peur de ne pas y arriver physiquement », relate-t-il sur le site Internet du quotidien régional Nice Matin. « Je ne me déplace plus tout seul. J'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un auprès de moi, ajoute l'acteur de cinéma et de théâtre, dont la dernière apparition remonte à Happy End de Michael Haneke en 2017. L'autorité électorale mexicaine a infligé une amende de 10 millions de dollars au mouvement de régénération nationale Morena, le parti du président désigné Andrés Manuel López Obrador, qu'on appelle AMLO, pour l'utilisation frauduleuse de fonds destinés aux victimes du tremblement de terre de septembre 2017. Morena avait ainsi levé 78,8 millions de pesos, 4,1 millions de dollars destinés, selon M. López Obrador, alors candidat aux victimes du tremblement de terre du 19 septembre. Il n'a toutefois pas encore été établi qu'une partie des fonds est finalement arrivée aux victimes. Mais l'autorité électorale souligne que même si cela a été le cas, les partis politiques ne sont pas autorisés à donner de l'argent à la population. Le constructeur français PSA Peugeot Citroën a confirmé jeudi son projet de retour progressif aux États-Unis, même si Washington allait au bout de son projet d'imposer 25 % de taxes supplémentaires sur les voitures importées. PSA confirme la mise en œuvre de son projet de retour progressif sur 10 ans en Amérique du Nord, comme annoncé en avril 2016, a indiqué le groupe automobile. Depuis 2016, PSA met en place aux États-Unis ses activités en misant d'abord sur des solutions de mobilité grâce à Free2Move, l'application qui permet d'avoir accès à tous les prestataires d'autopartage, poursuit le groupe. Il développera ensuite des solutions de mobilité et enfin l'entreprise envisage de commercialiser des voitures qu'il produira sur place. Et l'ancien site de l'abattoir Levinoff-Colbex à Saint-Cyril de Wendover, près de Drummondville, accueillera la culture du chanvre. L'abattoir a fermé ses portes en 2012 après une série de problèmes financiers. Le site sera occupé par le groupe La Feuille verte, dirigé par Danny Lefebvre. Vous écoutez le quotidien des quotidiens de ce vendredi 20 juillet 2018. Hélène Denis qui vous accompagne avec plaisir. Restez avec nous dans un petit moment à la revue de presse du Journal de Montréal.
Vous écoutez le quotidien des quotidiens.
Moment parfait ne reviennent jamais. Chien parfait de l'amour, ne reviennent jamais. Mais si parfois deux personnes un peu seules laissent tomber les larmes sans que ce soit voulu, alors il reste un peu, un ou deux jours de plus.
C'était Jean Leloup, les moments parfaits.
À la une du Journal de Montréal, des injections à 16 000 $ par mois, Julie Beauregard et François Dastous se démènent pour obtenir un médicament qui pourrait sauver leur fille, leur petite Ellie. La RAMQ et leur assureur ne veulent pas les rembourser. Paris de 140 millions pour le Club Med. Pourquoi le torchon brûle alors qu'on voit Marc Boivin et Max Pacioretty, chronique de Marc Defoy. Et les colocs au Cirque du Soleil, les proches de Dédé émus. Pas de congé pour des travailleurs du pont Champlain. Pour la première fois en 10 ans, le monteur d'acier Mathieu Fortin n'a pas de congé durant les vacances de la construction et continuera à s'affairer avec ses collègues sur le chantier du nouveau pont Champlain. J'ai toujours été habitué à avoir mes congés pendant les vacances de la construction. Ce sera plate de voir tout le monde partir aujourd'hui sans moi, mais je comprends que c'est pour le bien du projet, souligne Mathieu Fortin avec philosophie. Ces travailleurs comme lui ne font pas partie des 80 % des employés et des patrons du secteur de la construction qui partiront en congé pour les 2 prochaines semaines. Les 35 000 salariés du secteur de la voirie et du génie civil ne sont pas soumis à la même convention collective que leurs 180 000 collègues des secteurs résidentiels, commerciaux, institutionnels et industriels. Les chantiers routiers restent donc ouverts. M. Fortin mentionne d'ailleurs avoir perdu presque une semaine de travail avec la récente grève des grutiers. Afin de respecter l'échéancier du projet du nouveau pont Champlain, le constructeur a décidé de faire une rotation de vacances sur 8 semaines pour ses 550 monteurs d'acier. Au début du mois d'août, ce sera donc le tour de Mathieu Fortin de partir 2 semaines, une pause qui ne sera pas de trop pour le travailleur de 28 ans, qui aura travaillé 21 jours consécutifs avant de savourer son congé. $270 000 pour des chirurgies annulées. Les patients qui ne se présentent pas pour leur chirurgie au privé ont causé un gaspillage de fonds publics. Le ministère de la Santé a payé plus de 270 000 $ pour des chirurgies annulées dans le cadre du projet pilote permettant d'opérer des patients des hôpitaux publics dans trois cliniques privées. Ce gaspillage de fonds publics est dû en grande partie à la négligence des patients qui ne se sont pas présentés pour des interventions comme l'extraction de cataracte ou une coloscopie. Seulement à la clinique Rockland MD, c'est 108 000 $ qui ont été versés entre mai 2017 et mars 2018 pour des chirurgies qui n'ont jamais eu lieu. C'est un problème qui est connu, indique le directeur de la clinique, Dr. Fernand Tarras. Des patients changent d'idée, mais ils n'avisent pas l'hôpital qui les réfère, indique-t-il. Le projet pilote mis en place par le ministère de la Santé vise à réduire les listes d'attente dans les hôpitaux et mesurer le coût de chacune des interventions. Les patients sont recommandés par des hôpitaux publics et les frais sont assumés par le ministère. Quand des chirurgies ont des examens ou des examens sont annulés, les cliniques reçoivent la moitié du tarif prévu d'une chirurgie. Il a bien failli ne pas acheter le billet de 60 millions de dollars. Les cinq amis, dont deux de Gatineau, achetaient chaque semaine à tour de rôle un billet de loterie depuis au moins 8 ans, mais celui qui devait l'acheter vendredi dernier a bien failli l'oublier. J'ai réalisé que c'était mon tour lorsque je n'avais pratiquement plus d'essence et que je me suis arrêté dans une station-service. Le lendemain matin, quand j'ai vérifié le billet sur mon téléphone, j'ai vu 60 millions de dollars. « Je n'y croyais pas », a relaté Brian Redman d'Ottawa. Il a aussitôt contacté par téléphone ses quatre amis, mais personne n'a répondu du premier coup. Les cinq hommes qui travaillent dans le domaine de l'informatique se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient pour le gouvernement fédéral à Ottawa il y a plusieurs années. Si l'un d'eux travaille dans la fonction publique, les quatre autres œuvrent maintenant pour une entreprise d'applications mobiles en lien avec les banques. Ils ont tous l'intention de continuer de travailler, mais pas nécessairement pour le même employeur, même s'ils viennent d'empocher 12 millions de dollars chacun. Les amis qui sont tous mariés et qui ont à eux tout neuf, tous, pardon, je reprends, les amis qui sont tous mariés et qui ont à eux tous neuf enfants ont réclamé leur coquette somme jeudi au siège social de la Société de loterie et des jeux de l'Ontario à Toronto. D'ailleurs, il y a une photo des cinq amis qui ont le gros chèque de l'Automax dans les mains. Les gagnants donc du Lotomax de 60 millions, on voit Stéphane Dionne d'Embrun en Ontario, Gilles Dionne de Gatineau, Christopher Bisley de Carleton Place en Ontario, Brian Redman d'Ottawa en Ontario et Norman McDonald de Gatineau. Une Montréalaise de 94 ans a dû attendre l'ambulance pendant près de 8 heures après être tombée dans sa salle de bain, a rapporté CTV News. Grace Piccione a perdu pied et est tombée sur le sol alors qu'elle marchait vers sa salle de bain lundi matin. Son beau-fils, qui était présent, a rapidement composé le 911 vers 8h45. Elle disait qu'elle était endolorie de la tête aux pieds, a raconté la fille de Mme Piccione. Urgence Santé a indiqué à CTV News que la situation n'avait pas été considérée comme urgente, mais a admis qu'elle aurait dû être plus prioritaire, tout en soulignant avoir reçu ce jour-là un volume d'appels plus élevé que la normale, 30 % de plus qu'à l'habitude. Benoît Garneau, porte-parole pour Urgence Santé, a expliqué que le problème venait du système de triage qui détermine la nature de l'urgence d'un appelant. Pour le deuxième mois consécutif, le magazine américain Time a élaboré une couverture mettant en vedette Donald Trump, cette fois en fondant les portraits du président des États-Unis et de son homologue russe Vladimir Poutine en un seul. On y voit les traits distinctifs du président américain comme sa chevelure, ses lèvres et ses sourcils, se juxtaposant aux yeux clairs et au nez de Vladimir Poutine. En plus de la couverture papier, le Time a fait une version animée dans laquelle les deux présidents se transforment en alternance. Et pour terminer, l'État risque gros pour le Club Med. Sa contribution au projet du massif de Charlevoix dépasse les 140 millions. Le Club Med dévoile aujourd'hui le nom de son futur hôtel au massif de Charlevoix, un projet dans lequel les gouvernements misent gros. Depuis 10 ans, Québec et Ottawa ont injecté plus de 142 millions de dollars dans les projets du groupe Le Massif, dont 38,2 millions dans le seul projet d'hôtel estimé à 120 millions de dollars. De son côté, le Club Med, qui appartient au riche fonds chinois Fosun, n'investit que 14 millions. C'est toutefois le Club Med qui dicte plusieurs aspects architecturaux du futur bâtiment de 8 étages, dont la construction s'amorcera en mars au pied de la montagne. Le programme général, c'est celui du Club Med, alors il faut s'y conformer, affirme au journal Claude Choquette, président du groupe Le Massif. Le Club Med touchera une partie des profits de l'hôtel, mais M. Choquette ne souhaite pas dire combien. La première mouture du projet récréo-touristique, évaluée à 230 millions, n'a vu le jour qu'en partie. Une vente de condos a notamment été interrompue en raison d'une intervention de l'Autorité des marchés financiers. Le Club Med doit ouvrir en décembre 2020, mais pour l'instant, seuls les travaux de déboisement ont débuté.
الوديان غابت المراعي والقطعان اللي كان ضار العيان إذا حجبت الجدران Yeah.
Jazia Satour nous chantait Ida.
Les journaux régionaux quand Michel Tremblay est, point de suspension, ontarien. C'est un article de Daniel Leblanc dans Le Droit d'aujourd'hui. Un citoyen d'Ottawa nommé Michel Tremblay a eu toute une surprise en ouvrant sa boîte aux lettres cette semaine. Il y a découvert une lettre de félicitations directement venue de France et signée par la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaël Jean. Le hic, c'est qu'il y avait visiblement erreur sur la personne, car Madame Jean s'adressait plutôt à l'écrivain et dramaturge québécois bien connu Michel Tremblay, qui habite à Montréal. Il s'agit d'une lettre pour le féliciter pour le Grand Prix de la francophonie que lui a décerné l'Académie française à la fin du mois de juin. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, je croyais qu'il s'agissait d'une blague. Mais non, l'enveloppe est belle et bien affranchie de Paris et signée par Madame Jean. J'aurais cru que quelqu'un comme Madame Jean, une ancienne journaliste, aurait un souci un peu plus fort pour l'exactitude des choses. Je pense que Michel Tremblay, l'auteur, est assez facile à trouver. J'ai envoyé un courriel à sa maison d'édition et j'ai demandé qu'on lui réachemine le document, indique le citoyen franco-ontarien. Invité à réagir à ce cas anecdotique, le porte-parole de l'OIF, Bertin Leblanc, a confirmé qu'il y avait eu erreur sur la personne et par conséquent d'adresse. Vérification faite, c'est une simple erreur d'écriture de notre secrétariat. Une nouvelle lettre est partie aujourd'hui, même à la bonne adresse, a-t-il écrit. Dans le Nouvelliste, pas moins de 2500 témoins de Jéhovah sont arrivés à Shawinigan pour le grand rassemblement régional annuel. Ils ont loué le centre Gervais Auto du 20 au 22 juillet. Trois jours qui leur permettront d'échanger, mais principalement de parfaire et de renforcer leur foi. Jeudi, le centre Gervais Auto était un véritable chantier. En effet, les organisateurs avaient apporté tout leur matériel, allant des chaises confortables aux écrans géants, en passant par la piscine pour procéder au baptême des nouveaux fidèles. Guy Paquette, surveillant au programme de l'Assemblée annuelle régionale, a pris quelques minutes pour expliquer l'objet de cette grande rencontre. Aujourd'hui, ça prend du courage pour vivre dans notre société. L'objectif de notre rencontre cette année est d'informer, d'expliquer et d'outiller nos membres pour affronter les situations quotidiennes avec courage et en conformité avec les valeurs de notre religion, précise-t-il. Samedi, une dizaine d'adultes seront baptisés et feront leur entrée officielle dans cette communauté religieuse. Nous ne baptisons pas les gens lorsqu'ils sont petits. Nous voulons que ce soit leur décision, pas celle de leurs parents, informe M. Paquette. Guy Paquette est devenu témoin de Jéhovah à 22 ans. À l'époque, c'était vraiment plus difficile de faire du porte-à-porte. La religion catholique était très forte et c'était mal d'ouvrir sa porte et de nous écouter. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, les gens sont plus ouverts et je dirais même que les gens cherchent à combler un vide, raconte M. Paquette. Il ajoute que le nombre de fidèles chez les témoins de Jéhovah est en croissance au Canada d'environ 1% et sur le plan mondial d'environ 3%. Nous sommes plus de 8 millions dans le monde, souligne-t-il. Est-ce que le décès très médiatisé d'Éloïse Dupuis en 2016 à Québec, cette jeune femme témoin de Jéhovah qui est morte d'une hémorragie après avoir donné naissance à son enfant, a eu des répercussions sur la communauté et sur le nombre de fidèles? Pas vraiment. Cette histoire est triste, mais nous ne changerons pas pour autant nos valeurs. Notre religion évolue dans le temps, mais les écrits restent les mêmes et nos valeurs aussi, confie M. Paquette. Dans le soleil, une première acquisition en 178 ans pour Simons. Il a fallu la publication d'un article de blog du fondateur et président de Rituel.ca, Michael Carpentier, pour piquer la curiosité du PDG de la maison Simons, Peter Simons, et éventuellement l'amener à réaliser l'acquisition de l'entreprise de Québec qui offre des produits et des accessoires de rasage et de soins personnels pour les hommes, qu'ils soient bûcherons ou actuaires, précise-t-on. Jeudi, les deux hommes se sont serrés la pince pour marquer l'occasion historique. L'événement se tenait dans la nouvelle boutique de Rituel.ca dans le quartier Petit-Champlain. L'histoire débute en janvier alors que Peter Simons annonçait la construction d'un nouveau centre de distribution de classe mondiale dans la capitale. J'ai écrit un article suggérant à Simons d'offrir de l'aide en matière de logistique aux petites entreprises en croissance comme la nôtre, explique Michael Carpentier au Soleil. Quelques jours plus tard, je recevais une communication de Simons. On avait lu mon article et on voulait me parler. Michael Carpentier raconte qu'il y a eu une sorte de coup de foudre entre Simons et Rituel.ca. Peter Simons parle d'une association naturelle entre les deux entreprises. Le marché des cosmétiques masculins est en pleine croissance, selon les chiffres avancés par Simons et Rituel.ca. Les dépenses mondiales en savon, shampoing, huile et crème à raser devraient dépasser les 60 milliards de dollars d'ici 2020. Et l'arrivée des produits distribués par Rituel se fera de façon graduelle au cours des prochains mois chez Simons, en boutique comme en ligne. Dans la tribune, Jasmine Aspiro, plus qu'une porte-drapeau. Si Jasmine Aspiro n'avait pas été sélectionnée cet été pour porter le drapeau vert et or de la délégation estrienne, on se serait bien demandé ce qu'elle aurait pu faire de plus pour y parvenir. À sa première participation aux Jeux du Québec il y a 2 ans, la Sherbrookeoise a remporté 5 médailles dans 2 épreuves différentes, ce qui l'amène à jouer le rôle de mentor auprès des autres athlètes estriens. Jasmine Aspiro pratique le cyclisme sur route et le vélo de montagne. Sa collection de médailles pourrait laisser croire qu'elle excelle davantage en vélo de montagne puisque 4 de ses 5 médailles ont été obtenues dans cette discipline lors de la 51e finale des Jeux du Québec tenue à Montréal. Cette fois, à la 53e finale des Jeux d'été qui aura lieu à Thetford Mine dès le 27 juillet, Jasmine Aspiro se retrouvera dans la catégorie cadette. Si elle espère que sa récolte sera aussi faste, elle assure que le plaisir primera d'abord. « Je serai peut-être la porte-drapeau, mais je ne veux pas me stresser avec ça. Et d'ailleurs, en tant que porte-drapeau, j'aurai un rôle de mentor. Et je dois donc montrer l'exemple aux autres athlètes. Il suffit d'être bien préparé et de profiter du moment pour que les bons résultats suivent par la suite », indique-t-elle. Jasmine Aspiro avoue avoir été étonnée d'apprendre qu'elle guidera la troupe estrienne dans une semaine. Il y a tellement de bons athlètes qui mériteraient ce rôle en Estrie. C'était une belle surprise pour moi de me voir remettre le drapeau, parce que je ne suis pas la seule qui ait les qualités requises pour remplir ce mandat. Sa première expérience aux Jeux du Québec fut grandiose, la barre était haute. Je ne savais pas vraiment ce qui m'attendait lors de ma première participation. J'ai tellement adoré l'esprit des Jeux du Québec à Montréal. J'étais plus jeune, j'étais impressionnée et mes premiers Jeux sont inoubliables. Je devrais maintenant partager mon expérience avec les plus jeunes, explique l'athlète. La saison de Jasmine Aspiro est en montagne russe cette année. Ça ne va pas exactement comme je le souhaiterais, mais ça va quand même. Je peux qualifier ça d'année d'adaptation. Je ne suis plus chez les minimes, mais chez les cadettes. Le défi est plus imposant. Aux Jeux du Québec, je me retrouverai toutefois contre les mêmes athlètes que lors de ma première participation. Si j'ai été capable de gagner 5 médailles il y a 2 ans, je me dis que c'est possible de le refaire cette année. Aux yeux du chef de la délégation estrienne, Nicolas Vanas, le rôle de Jasmine Aspiro sera encore plus grand qu'à l'habitude. Je la vois plus comme une capitaine d'équipe. Elle a des qualités de leader qui pourraient servir à notre délégation, estime le chef de la délégation. c'est vendredi. J'espère que vous êtes de bonne humeur. Il fait beau, il fait chaud. Il fera chaud aussi toute la fin de semaine. Alors, j'espère que vous allez pouvoir vous trouver un plan d'eau pour vous rafraîchir ou un endroit climatisé. C'est Hélène Denis qui vous accompagne à l'émission Le quotidien des quotidiens. À venir, un souvenir de Richard Séguin et Marie-Claire Séguin, deux belles voix qui s'unissent, frères et sœurs jumeaux, qui vont chanter, comment ça s'appelle, Maurice?
Chanson démodée.
Chanson démodée, mais qu'on écoute en 2018. Restez avec nous.
Vous écoutez Le quotidien des quotidiens.
J'ai trouvé mamie en haute montagne. La lune était ronde, le hibou muet.
En haute montagne, je l'y ai laissé. À la nuit tombante, j'irai la trouver. Mamie a les pieds comme biche vive. Sa peau est plus blanche qu'au pied de sapin. Si je la
Marie-Claire et Richard Séguin nous chantaient chansons démodées.
« Portion culturelle, agenda du week-end, c'est dans le Journal de Montréal. Quelques suggestions sorties. Festival international Nuit d'Afrique jusqu'à dimanche. Le village des Nuits d'Afrique est situé dans le quadrilatère bordé par les rues Ontario, Clark, de Montigny et Saint-Urbain, une zone familiale de la bouffe et surtout de la musique et des spectacles de 14h à 20h. Zalama Crew, vendredi, 21h40. Le chœur brésilien, demain, 14h. Sibuka Bambino, dimanche, 21h40. Et plein d'autres artistes. Vous pouvez consulter le site festivalnuit.com. Aussi, Bouffon Montréal, jusqu'au 29 juillet, au coin de la rue de Blury et sur Sainte-Catherine, de midi à 23h. Tous les jours, on pourra se retrouver dans le plus grand village gourmand d'Amérique du Nord. Dans le cadre des ondes musicales, plusieurs spectacles ont lieu un peu partout à Laval jusqu'au 8 août. Ce soir, Émile Bilodeau sera au Centre de la Nature à 20h45. Simon Lagagnère fera la première partie à 20h. Demain, au même lieu et à la même heure, on entendra Félix Diot, puis Karim Ouellet. Rendez-vous à la scène du Village des Arts si vous aimez la musique cubaine dimanche. Trabuco Habanero présente un spectacle au Parc des Prairies à 19h30 et c'est gratuit. Pour tous les détails, www.laval.ca. Juste pour ados, dimanche à 16h à la Place des Festivals aura lieu le show le plus gratuit du monde, Juste pour ados. Vous pouvez consulter la page Facebook. C'est officiel, Omar Sy sera Arsène Lupin dans une série sur Netflix. L'acteur et la plateforme d'écoute en continu viennent de le révéler sur Twitter lors d'un échange concis et sans équivoque. Dans un premier tweet, Netflix France et Belgique a écrit une série d'émojis. Une main qui salue, un bonhomme noir en costume, un chapeau et une caméra. Ce à quoi Omar Sy a répondu par un émoji qui réfléchit. Traduction. « Salut, ça te dirait de jouer Arsène Lupin dans une série Netflix, enchaîner la plateforme? » L'acteur a alors rétorqué avec l'emoji d'une main qui fait le signe « OK ». Un morceau de lune au Centre des sciences, une pierre lunaire, fait son entrée vendredi aujourd'hui au Centre des sciences de Montréal. Le morceau de basalte, B-A-S-A-L-T-E, prêté par la NASA à l'Institution montréalaise, est une tranche de l'échantillon 70215 récolté lors de la mission Apollo 17 en 1972, la dernière fois que l'humain a foulé la Lune. Fait rare, le public aura la possibilité de toucher la pierre de 24 grammes exposée au Centre des sciences. Pour qu'une pierre lunaire soit touchable, elle doit être suffisamment lisse pour éviter qu'elle se dégrade à force d'être frottée par des dizaines de milliers de paires de mains. Seules 10 pierres lunaires peuvent être touchées dans le monde. La 75e Mostra du cinéma à Venise s'ouvrira le 29 août avec la projection du film First Man du réalisateur Damien Chazelle, dont le précédent film La La Land a obtenu 6 Oscars en 2017, ont annoncé jeudi les organisateurs. Comme dans La La Land, qui avait lui aussi été présenté à Venise, le Canadien Ryan Gosling tient la vedette dans First Man, une œuvre racontant plusieurs années de la vie de l'astronaute américain Neil Armstrong. C'est un vrai privilège que de pouvoir présenter en première mondiale le nouveau film très attendu de Damien Chazelle, a déclaré le directeur de la Mostra, Alberto Barbera, cité dans un communiqué. critique Fausses notes et faux pas. La suite de Mamma Mia est une insulte aux admirateurs de comédie musicale. C'est la critique de Manon Dumais que je vais lire pour vous. Si vous êtes fan d'ABBA et de comédie musicale, la suite inattendue et inutile de la pitoyable adaptation de la pièce de Katherine Johnson par Phyllida Lloyd, la femme de fer, remplacée 10 ans plus tard par le guère plus inspiré Old Parker, Imagine-toi et moi, vous donnera envie de hurler au sacrilège. La pièce originale prétexte enfiler les plus grands succès du groupe suédois, ne cassant pas la baraque, on espérait à peine que sa suite la surpasse en originalité. Ayant tricoté une intrigue rachitique autour de 18 chansons d'ABBA, dont quelques-unes déjà interprétées, Dancing Queen, dans Mamma Mia, et plusieurs méconnues, I Kissed the Teacher, Old Parker nous ramène sur l'enchanteresse petite île grecque. Le tournage a cependant eu lieu en Croatie, où Sophie, Amanda Seyfried, a fait agrandir l'auberge de sa mère Donna, Meryl Streep. Enceinte de quelques semaines, elle prépare fébrilement avec Fernando, Andy Garcia, qui chuchote plus qu'il ne chante, la grande soirée de réouverture. Quand elle n'est pas occupée à chanter sans conviction, Sophie écarquille ses grands yeux bleus et se réfugie dans les souvenirs de la jeune Donna, Lily James, au moment où celle-ci rencontra les trois amours de sa vie, joués par trois acteurs qui n'arrivent pas à la cheville de leurs aînés, auxquels ils ressemblent vaguement. Malgré l'enthousiasme et l'application de la jeune distribution, on se désole que celle-ci se révèle peu douée pour le chant et la danse. Bref, on doute qu'elle puisse faire long feu à Broadway. Réservant peu de surprises, tant sur le passé de Donna que sur le présent de Sophie, Old Parker multiplie les allers-retours dans le temps avec de lourds et artificiels effets de montage. En vain, on attend que la magie d'ABBA, dont la moitié masculine fait brièvement acte de présence, fasse son effet que le chorégraphe Anthony Van Laast livre d'éblouissants tableaux, le plus achevé étant ironiquement Waterloo. Et puis, on revient au présent, où l'on retrouve Sophie, qui est bien triste parce que son insipide mari, Sky, Dominic Cooper, est retenu à New York. Et c'est là que le malheur commence réellement pour le public, qui doit assister à l'un des pires duos amoureux vus au cinéma, tandis que Seyfried et Cooper martyrisent One of Us, bien que son père Sam, Pierce Brosnan, soit à ses côtés. La pauvre Sophie a la mine basse puisque Donna et ses deux autres pères, Bill, Stella Skarsgård, et Harry, Colin Firth, ne pourront être de la partie. Arrivent en renfort les deux meilleures amies de Donna, Rosie et Tanya, interprétées par les délicieuses et piquantes Julie Walters et Christine Baranski, qui supplantent sans se forcer les actrices qui les incarnent dans leur jeunesse. Tandis que défilent les chansons interprétées sans âme pour la plupart, force est de constater que l'ensemble peine à lever, et ce même si Meryl Streep et Cher, réunis à l'écran 35 ans après le mystère Silkwood, apparaissent au dernier acte pour sauver du naufrage ce festival des face B d'ABBA, où Lily James, malgré son bronzage parfait et son sourire étincelant, fait pâle figure en jeune version de Streep. Mince consolation, Pierce Brosnan n'y brille presque pas. Mamma Mia, c'est reparti. Et Manon Dumais, donc, accorde 1,5 étoile à ce film qu'elle n'a pas vraiment aimé. On écoute la vraie affaire avec une chanson d'ABBA et les chanteurs et chanteuses originaux. We'll be right back.
Canal M, c'était ABBA, Dancing Queen.
Alors, les sujets libres. Laurentide, la municipalité de Nominingue obtient une rare victoire. C'est un article de Nicolas Bérubé. Après 8 années de démarches auprès d'Ottawa, la municipalité de Nominingue dans les Laurentides a obtenu une interdiction des bateaux à moteur à essence sur le petit lac Sainte-Marie. Le processus est beaucoup trop complexe, dit un citoyen. Les riverains du lac Sainte-Marie à Nominingue dans les Laurentides ont de quoi célébrer ces jours-ci. Leur lac est plus propre et la contamination récurrente aux cyanobactéries, algues bleues, qui a déjà fait interdire la baignade à moins de risque de revenir ruiner leur été. C'est qu'après 8 ans de démarche, Transport Canada a ajouté le lac Sainte-Marie à sa liste des lacs interdits aux bateaux à moteur à essence à la fin de l'année 2017. Une victoire pour les élus et les citoyens qui disent avoir été surpris par la lourdeur et les coûts associés à ce processus. Le plan d'eau est fédéral. Le fond de l'eau est provincial et les berges sont au municipal, résume Georges Descaries, maire de Nominingue. C'est clair que c'est une grande victoire pour nous, mais tout ce processus-là est long et ardu. Il a fallu faire des efforts financiers et humains considérables. Le lac Sainte-Marie n'est pas bien grand. Il fait 0,64 km² et a une profondeur moyenne de moins de 4 mètres. On y trouve 72 habitations. Léonard Lafontaine, président de l'Association des résidents du lac Sainte-Marie, explique qu'une poignée d'amateurs de bateaux à moteur y circulait à haute vitesse depuis des années. On avait des moteurs de 250 chevaux, 400 chevaux dans notre petit lac. De nombreux résidents autour du lac se plaignaient, dit Léonard Lafontaine. Les moteurs à essence relâchent des hydrocarbures dans l'eau et leur puissante hélice soulève les sédiments accumulés au fond du lac, dont les cyanobactéries se nourrissent. 5 épisodes de contamination aux cyanobactéries ont été documentés dans le lac Sainte-Marie par le ministère de l'Environnement entre 2004 et 2015. À la suggestion de Transport Canada, les résidents du lac Sainte-Marie se sont d'abord dotés d'un code d'éthique qui balisait l'utilisation des bateaux à moteur. Mais la municipalité a reçu des dizaines de plaintes affirmant que le code d'éthique n'était pas respecté. Quelques 90 % des riverains ont aussi signé une pétition demandant l'interdiction des bateaux à moteur sur le lac. Mélissa Laniel, chargée de projet au Conseil régional de l'environnement des Laurentides, l'organisme à but non lucratif qui a travaillé pendant 4 ans avec la municipalité de Nomineng dans le dossier du lac Sainte-Marie, note qu'il a déjà été très facile pour une municipalité d'obtenir une interdiction des bateaux à moteur sur un plan d'eau. Il y a 30 ou 40 ans, des municipalités, notamment Sainte-Anne-des-Lacs, ont obtenu ce règlement pour l'ensemble de leurs lacs, dit-elle. L'arrivée au pouvoir des conservateurs de Stephen Harper au milieu des années 2000 a changé la donne. Soucieux de réduire la réglementation en général, le gouvernement fédéral a alourdi le processus menant aux restrictions à la conduite des bateaux à moteur. Les demandes de Transport Canada vont loin, note Mme Laniel. Par exemple, le gouvernement nous demandait si ça allait avoir un impact sur la station-service locale qui pourrait vendre moins d'essence. Le gouvernement met l'accent sur les impacts socio-économiques, alors qu'il faudrait peut-être davantage tenir compte des impacts environnementaux, dit Mélissa Laniel. Léonard Lafontaine croit que le gouvernement devrait tout simplement permettre aux municipalités de réglementer les activités qui se font sur leur lac. En 1999, un rapport du Comité de consultation sur la sécurité nautique et la qualité de vie sur les lacs et les cours d'eau du Québec recommandait d'ailleurs d'interdire les embarcations à moteur à essence sur les lacs de moins de 1 km carré et sur les lacs de moins de 4 km carré servant de réservoir d'eau potable. Ces recommandations n'ont pas été appliquées, note M. Lafontaine. Actuellement, au Québec, n'importe qui peut mettre n'importe quel bateau sur presque n'importe quel lac. C'est la pagaille. Le processus auprès de Transport Canada est très long et complexe, ce qui explique peut-être que peu de municipalités décident de l'entreprendre. Marie-Annick Côté, porte-parole de Transport Canada, note que le rôle du ministère est de travailler avec les citoyens et les municipalités dans cette démarche. L'idée, ce n'est pas de débarquer et d'imposer une réglementation, dit-elle. On accompagne les municipalités qui, avec les citoyens, arrivent à un accord. La démarche se fait en plusieurs étapes, dit-elle. Ça doit être fait de façon rigoureuse parce qu'il faut aller chercher le plus possible un consensus autour d'un lac. Il faut réaliser que le résultat de cette démarche-là va être une réglementation qui va être enchâssée dans une loi. Pour le maire de Nomineng, Georges Descaries, l'idée n'est pas de chercher à restreindre les droits d'un groupe de citoyens au profit d'un autre. La municipalité de Nomineng compte 97 lacs et les moteurs à essence ne sont interdits que sur le lac Sainte-Marie. Certains lacs, comme le lac Témiscouata, sont vastes, profonds et peuvent recevoir des embarcations avec des moteurs de forte puissance, dit-il. Dans le cas du lac Sainte-Marie, utiliser un gros bateau est, d'après moi, un non-sens. C'est tout petit comme lac. La collaboration de Chantal Lamar, c'est dans la section pause de la presse d'aujourd'hui, les causes et les conséquences de mon choix de culotte. Un chant de cigale en trame sonore, un petit Roland du Rosé de la veille et un après-midi chaud avec pour seul dessein de gratouiller le granité au congélateur, question de descendre du hamac de temps à autre. Voici mon dernier billet pour pause chic. Vous allez me manquer. Le plaisir se renouvelait chaque fois. L'histoire d'une robe, les émois devant les agréments esthétiques, les confidences reçues de gens de style autour de leurs envies et de leurs tocs textiles m'enchantaient. Chaque fois. Un peu comme faire un petit point tranquille et concentré sur la régularité de l'aiguille et sur la couleur des fibres à choisir, la tête complètement consacrée à un aspect de la vie qui m'anime depuis toujours. Comment ça donc? Pourquoi être bouleversé par la coupe d'une veste parfaitement ajustée à la bonne personne? Une vision qui se trouve loin, loin de la visite guidée des walk-in des stars et de l'obscénité de leur garde-robe. Le tablier brodé de poussins de mémère cardinale me semble plus précieux que tous les joyaux de la couronne. J'ai probablement un karma de mode. Ce principe des religions indiennes expliquerait certainement mieux que moi mon assujettissement au plaisir du vêtir. Entre des époques glorieuses à frayer avec les élites, je revins souvent sur terre en oiseau tanné des mondanités. J'ai gardé des réflexes de ma vie de pie voleuse qui entasse trop pour son petit nid, et je fus certainement oiseau de proie. Je repère encore de très loin les bonnes affaires. Je suis convaincue de ne jamais avoir eu trop d'argent. Encore là, mon manque d'intérêt pour le haut de gamme et le magazine Forbes le prouve. J'ai dû être une pearly queen anglaise vivant dans un quartier populaire, mais ayant la propension à ne pas passer inaperçue. Un simple costume ajouré d'une centaine de boutons nacrés, du bling-bling de cassé. J'ai encore des palpitations à la vue des costumes de mariachi, des vestes de toréador et même un peu des jumpsuits d'Elvis. Une autre fois, je fus possiblement cloîtrée. Outre le fait que je parle maintenant sans reprendre mon souffle, l'idée d'un uniforme fait des plus nobles matières et de la meilleure confection qui soit. Yes, madame. Fräulein Maria est plus chic au couvent qu'en gouvernante chez le capitaine Von Trapp. J'ai dédain des étoffes cheap, des vêtements qui tombent mal et de tout ce qui s'approche de la fast fashion. Pourquoi acheter de la guenille qui entretient un système économique détestable et qui n'est bonne qu'à calfeutrer les fenêtres l'année suivante? Bien sûr, j'ai dansé avec la troupe des Ziegfeld Follies et clairement, j'ai déjà conduit un camion. Je demeure une fille à plumes et à paillettes qui ne dédaigne pas de porter la salopette ou le soulier plat, voire la bottine. Mais oui, dans l'Antiquité, j'ai fait partie du cercle de philosophes. Pas la liste A, ceux qui couraient les talk-shows à télé Parthenon ou qui remplissaient le théâtre d'Épidaure à guichet fermé avec leur tournée de stand-up. Je fus certainement dans le lot de ceux qui pensaient tout haut et qui parlaient tout seuls pour les badauds qui traînaient autour de l'Acropole. Alors, je passe quelques paragraphes puisque le temps me l'indique. Que la curiosité, l'ouverture et le style soient avec vous. Et c'est signé Chantal. Merci Chantal Lamarre pour cette belle collaboration. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde. Ici Hélène Denis qui vous souhaite bonnes vacances. On se retrouve lundi, nous.